Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tous les jeunes veulent travailler dans la tech et veulent surtout être développeurs. C'est pas étonnant parce qu'en fait, c'est le métier le plus représenté dans les médias. Pourtant, il y a tout un tas d'autres métiers dans le numérique et c'est pour lancer mon job board avec My Little Team que j'ai décidé de faire une série d'entrevues pour parler justement des métiers de la production. Alors ça va de l'exploitation à l'infrastructure, il y a tout un tas de métiers dans l'exploitation et j'espère que dans cette série, on va pouvoir justement aborder une grande partie de ces métiers-là. Mais on reparlera de mon job board en fin de vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin pour en savoir plus et si tu cherches un taf dans le milieu du numérique. Aujourd'hui, je suis avec Cyprien Vacogne, j'espère que ça se prononce comme ça. Ensemble, on va démystifier le métier de technicien support et on va aussi parler de comment le DevOps a un impact sur ce métier, parce que nous n'oublions pas, on est sur une chaîne DevOps.
Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti!
Bonjour à toi, cher compagnon, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'En Aparté, l'émission où je m'entretiens avec un invité. Alors avant de commencer, je te rappelle que j'ai créé et que j'anime une communauté en ligne francophone autour du DevOps et du cloud. On est déjà plus de 1000 à échanger tous les jours, on s'entraide et on discute. Pour nous rejoindre, c'est hyper simple. Alors, pour ne pas rester seul face à tes questions, c'est le premier lien en description, ou alors tu peux aller sur le site compagnon-devops.fr, tu t'inscris. Et tu verras, tu pourras nous rejoindre et on discutera. Alors, bonjour Cyprien, bienvenue dans le podcast. Est-ce que justement tu peux te présenter en quelques mots et nous dire ce que tu fais dans la vie aujourd'hui?
Bonjour à tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Je suis à l'heure actuelle, je suis indépendant dans tout ce qui est technicien informatique qui peut se relever justement à gérer des infrastructures d'entreprise, mais aussi justement donner des cours sur cette écosystème technicien informatique, tout simplement.
Bon, je vais commencer avec mes petites questions rituelles. On va rentrer dans le sujet du technicien un peu plus tard. J'ai des questions rituelles qui est, pour toi, c'est quoi la définition du DevOps?
La définition du DevOps, c'est un peu compliqué puisque, de mon point de vue, c'est énormément de choses. C'est de l'infrastructure, c'est un peu de développement. C'est un peu du bêta testing, tout simplement. C'est vraiment un écosystème qui est vraiment à part, dans lequel, en fait, il faut être compétent sur plusieurs points, tout simplement.
Ok, alors c'est vrai que c'est pas la définition que moi j'ai. Je sais pas si tu la connais un peu, la définition que j'ai. Pour moi, c'est vraiment un mouvement, et en fait, tout ce que tu as dit, ça rentre dans le mouvement, mais c'est pas uniquement tout ça. Du coup, je pense qu'on va en discuter, justement. Et toi, comment est-ce que tu as rencontré le DevOps, et est-ce que ça a changé quelque chose dans ta vie après avoir rencontré le DevOps?
J'ai découvert le DevOps par le biais d'un ancien contrat en CDI, où on m'a recruté en tant qu'administrateur système à l'époque junior en Linux. Et petit à petit, justement, on m'a envoyé vers cette piste-là en me disant, bah voilà, on est administrateur, mais il faut être un peu couteau suisse, savoir faire du développement, savoir utiliser du cloud, savoir utiliser des instances, savoir faire aussi de l'automatisation, puisque à l'heure actuelle, c'est de plus en plus recherché, et ça nous fait gain de temps, en fait, tout simplement, que ça soit de l'installation, de la migration, création d'environnement pour des clients, etc., etc. Et c'est cette notion-là, justement, que j'inculque en 2022 à mes étudiants en technicien aussi, c'est de gagner à la fois en simplicité, mais aussi tout en automatisant certaines tâches, des installations, etc., etc.
D'accord, mais justement, vu que tu parles de tes étudiants, c'est vrai que ça, je n'avais pas percuté au moment où j'avais regardé ton profil LinkedIn. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Tu donnes des cours à quel type de, à quel niveau en fait, et qu'est-ce que tu leur inculques à tes étudiants justement?
C'est du niveau bac, ça peut être de la reconversion, ça peut être du niveau bac plus 2, bac plus 4, bac plus 5. Tout dépend en fait de vraiment l'écosystème sur lequel on nous propose soit des missions, tout simplement. Et là, c'est du Windows, ça peut être du Linux, ça peut être de la virtualisation. Et la plupart de mon temps, c'est justement des gens en reconversion qui ont une idée un peu, si je puis dire, justement un peu archaïque de l'informatique, c'est-à-dire on appuie sur deux boutons et ça fonctionne. L'informatique, c'est pas, et notamment le métier de technicien, c'est pas juste appuyer sur deux boutons. Ça va une manière de, un peu de, comment puis-je dire ça, de tout simplement de comprendre l'informatique, de savoir comment cela fonctionne, et quelque chose qui est plus pour moi un peu en rapport justement avec le DevOps, c'est cette notion de veille informatique, veille technologique, comme on dit, se tient un peu au courant des informations, etc., etc. Pas plus tard que la semaine dernière, on faisait de l'ITIL, et ITIL, depuis quelques années, est très porté sur le cloud, et les gens en reconversion, même les techniciens, le cloud, pour eux, c'est une notion qui est justement très abstraite. Et il faut justement expliquer que le cloud, c'est une innovation, qui correspond à des besoins vraiment très précis. Et ce n'est pas juste, on prend un serveur, on le donne à un client, et puis bah, ça va beaucoup plus loin. C'est vraiment une façon de penser qui est à part, sur lequel il faut vraiment, vraiment beaucoup travailler, en donnant des exemples tout simples, pour qu'ils puissent comprendre cette innovation-là et que ça rentre un peu dans du DevOps, sans non plus leur dire que c'est du DevOps, pour éviter justement de plus les perturber.
Justement, alors moi j'ai un BTS, donc brevet technicien supérieur, donc quand tu me dis technicien, moi tout de suite je pense à un bac plus 2, un BTS. Est-ce que dans ta tête c'est ça? Est-ce que, déjà est-ce que c'est ça? Et je déroulerai ma seconde question après.
Tout à fait, oui, c'est tout à fait ça. Pour moi, c'est un bac plus 2, même si ça n'empêche pas des fois d'avoir des administrateurs, des ingénieurs, des DevOps qui sont énormément calés et qui n'ont pas forcément de diplôme d'informatique. Mais à la base, oui, un technicien, c'est un bac plus 2 pour vraiment lui apprendre les fondamentaux.
Ouais. Eh ben justement, est-ce que tu penses pas, moi en tout cas je le pense, mais est-ce que tu penses pas que le cloud c'est un peu trop haut niveau pour justement des techniciens, parce qu'on déjà ils doivent apprendre les bases du système, si on parle de Linux ou de Windows. Moi c'est plutôt le monde ouvert, donc moi de Linux. Est-ce que justement, parce qu'il y a tous ces aspects virtualisation, réseau, etc. Est-ce que c'est pas un peu trop pour un technicien justement?
C'est vraiment, on va dire, à la vraiment limite du programme, mais pour moi, c'est quand même important, puisque à l'heure actuelle, on a de plus en plus de clients, d'entreprises qui passent sur du cloud. Et demain, on est technicien, ok, on va dans une entreprise, on doit dépanner un serveur. Si on n'a pas certaines notions de cloud, on est un peu coincé. Après, si on parle vraiment de choses poussées, de créer des briques un peu particulières sur, je sais pas, de la AWS, chez Google, chez Azure, etc. Là, oui, on est vraiment dans de l'administration pure, on n'est pas sur un niveau de technicien. Mais un technicien doit savoir avoir des briques Windows, Linux, réseau, parce que c'est très important dans le cloud, mais aussi essayer de comprendre un peu les bases et les fondamentaux du cloud pour si demain ils doivent se dépanner. Et moi, ça m'est déjà arrivé en prenant de temps en temps des alternants qui doivent agir sur des instances cloud chez OVH et me dire, bah, en fait, je sais pas ce que c'est du cloud, ça correspond à quoi, ça sert à quoi, comment c'est tarification, pour quels besoins, comment ça se passe au niveau des sauvegardes, etc. C'est vraiment des questions qui se posent de plus en plus. Et là où j'ai beaucoup de demandes et beaucoup d'étudiants qui me posent ces questions-là pour dire, en fait, c'est quoi? Et même dans la vie de tous les jours, on utilise plein de services qui utilisent du cloud sans réellement s'en rendre compte. Et quand on dit, bah si on l'utilise tous les jours en donnant des exemples un peu spécifiques avec des instances, etc., etc., bah on se dit, ah bah oui, j'en utilise, mais je ne savais pas ce que c'était réellement.
Ouais, pour moi, il y a un enjeu justement à donner comment dire, une vision de ce que c'est le cloud sans rentrer dedans, en effet, aux techniciens, parce que c'est pas à eux d'aller concevoir les infrastructures cloud, mais en effet comprendre que leur serveur, bah, il fait partie d'une infrastructure cloud, ça, c'est en effet important.
Okay.
Du coup, on va parler justement du poste de technicien support. Ça fait combien de temps que tu fais ça ou que tu as fait ça? Je sais pas si tu le fais encore, j'ai cru comprendre que oui un petit peu. Est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans le détail de ce que c'est que ce poste-là et quelle base, en fait, il faudrait pour faire ce poste-là?
Pour moi, déjà, en fait, technicien support, c'est un mot qui veut tout et rien dire, parce que technicien support, il faut donner une définition à support. Et on se rend compte qu'à l'heure actuelle, des métiers de technicien, technicien proximité, data center, etc., il y en a énormément. Et chacune de ces composantes-là, je parle d'expérience, sont complètement différentes. Et bah, un technicien, ça peut être juste un technicien qui va réparer des ordinateurs, ça peut être un technicien qui va agir sur des instances, à son niveau, bien sûr, qui va faire du ticket, qui va faire un peu de virtualisation, parce qu'on en demande de plus en plus, etc., etc. C'est la même chose, qu'on est technicien support data center, ça existe par exemple chez Scaleway, pour avoir travaillé avec eux, notamment sur ce point-là. On n'a pas cette notion de virtualisation, on n'a pas cette notion de cloud, etc., mais on a cette notion de matériel, de hardware, par exemple, qui est aussi très importante, savoir ce que c'est un processeur, et à l'heure actuelle, il y a beaucoup de techniciens, quand on leur pose la question, ils nous disent, oui, on sait ce que c'est un processeur, on sait ce que c'est une carte mère, mais quand on rentre un peu dans le détail, il y a un manque, tout simplement, de connaissances. C'est ça, c'est quelque chose de très important. Après, un bon technicien, c'est quelqu'un qui va être assidu, qui va faire preuve aussi de courtoisie, tout simplement. Pourquoi ? Parce que faut savoir être poli, faut savoir être respectueux, faut comprendre aussi que des fois, en tant que technicien, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout connaître non plus. Et savoir aussi se reconnaître que on a ses propres limitations, et etc., etc. Pour moi, c'est un boulot qui fait un peu tremplin sur. Je suis un peu débutant en informatique, j'apprends, je monte en compétences, et après je peux soit rester technicien, certains le resteront toute leur vie parce que c'est un choix, et d'autres veulent évoluer pour voir d'autres choses, d'autres aspirations, tout simplement.
Justement, je reviendrai sur les évolutions possibles. Est-ce que pour toi, moi je me dis en fait qu'un technicien, notamment support, il doit avoir finalement un périmètre qui est défini un peu à l'avance quand même, parce qu'il peut pas tout faire. Par exemple, on va parler du technicien qui va s'occuper du réseau, ou alors du technicien qui va s'occuper des instances Linux, ou du technicien Windows. Voire, comme tu le disais tout à l'heure, du technicien qui va intervenir dans les data centers pour changer les machines, etc. Donc, le technicien, il peut pas tout faire. Donc, pour moi, il a un périmètre qui est imposé par l'entreprise et il est potentiellement dans une équipe. Et en effet, le technicien va pas s'occuper de tout, mais va s'occuper des premiers, peut-être des premiers incidents, des premières analyses qu'il peut résoudre à son niveau. Et puis, si ça devient plus compliqué, il va envoyer son incident, parce que là on parle d'incident, dans le cadre d'un incident, aux personnes un peu plus expérimentées, qui sont les administrateurs système et autres, etc. Est-ce que ça te semble juste si on dit ça ?
Pas forcément. Encore une fois, je parle par expérience et aussi autour de moi, on a vraiment deux situations différentes au niveau des techniciens. Moi, j'ai été technicien pour une ESN bretonne où on était une dizaine d'informaticiens. J'étais technicien, mais ça m'a pas empêché d'installer des hyperviseurs, ça m'a pas empêché de faire du backup, faire un peu de développement, faire du réseau, du routeur, changer des composants hardware, etc., etc. Et c'est ce que je dis souvent à mes étudiants quand ils me disent, moi, quand j'aurai mon diplôme de technicien support, j'aimerais rentrer dans une grosse entreprise. Pour moi, c'est complètement faussé. Pourquoi ? Parce que dans les très grosses entreprises, en général, les services d'informatique, ils sont très très on va dire fastidieux, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde et on est très très souvent rattaché à une tâche qui va nous être fixée. Exemple, si on me dit d'installer des ordinateurs Windows, je vais faire que ça, je vais rien voir d'autre. Et ça va être un peu chronophage un peu dans le temps puisque on va voir les installations de Windows, on va maîtriser, c'est bien, mais le jour où on va avoir un peu plus d'appétence et un peu plus d'envie justement d'évoluer, d'apprendre des choses, technicien, je fais du support avec les ordinateurs, mais je fais un peu de réseau, je fais un peu de téléphonie, je fais un peu de ticket, etc. Très souvent, on va nous dire, non, on t'a pris pour une tâche spécifique, si tu veux faire une autre tâche, il faut trouver toute autre chose. Alors que moi, vraiment, quand j'ai travaillé dans cette ESN-là, j'ai fait du Windows, du Linux, du Mac, du backup, etc. Ça a été justement très, très formateur. Pourquoi ? Parce que il y avait certes cette limite administrateur, technicien, mais on essayait quand même, malgré tout, des fois, de faire des choses qui pouvaient dépasser notre cadre pour justement nous stimuler, nous rendre un peu plus efficients, efficaces, et aussi pour voir si vraiment on était motivé pour avancer, pour s'améliorer, pour apprendre, monter en compétences, tout simplement. Pour moi, il y a vraiment ces deux notions-là. Moi, je l'ai bien vu dans les deux cas, j'ai fait les deux cas, et dans les très très grosses entreprises, moi, c'était le domaine bancaire. Non, mon ordre de mission, c'est les ordinateurs, je fais que les ordinateurs. Si je veux faire autre chose, il faut que je change malheureusement de société, ce qui est un peu dommage en soi.
Oui, j'ai vécu ça justement au tout début de ma carrière. J'ai fait l'installation des machines sous Windows pour Casino, donc une très très grosse boîte. Et après, j'étais dans un petit éditeur logiciel, enfin un éditeur moyen, on était une cinquantaine de personnes. Et là, justement, j'ai pu aller un peu plus loin et c'est là où j'ai commencé à apprendre pas mal de choses, justement. Et moi, je trouve que c'est bien... Parce que c'est vrai qu'on ne fait pas que du support, on peut faire aussi de la R&D. Moi, j'ai pris un alternant il y a 3 ans où je lui faisais faire aussi de la R&D, pas de support. Aujourd'hui, on en a un, mais il est plus technicien. Il fait des études d'administrateur système, mais quand on l'a pris, il était niveau technicien. Et là, il fait de la R&D. Et puis, petit à petit, on l'amène à faire du support parce que justement, on lance des services en ligne et on va lui apprendre ce que c'est que d'être support.
C'est ça, c'est très important.
Ouais, c'est super bien. Et aller dans des petites boîtes, ça permet de voir beaucoup plus de choses, ça c'est sûr, et je trouve que c'est là où on progresse le plus vite.
C'est ça.
Parce que justement, les tâches sont moins spécialisées. Ben justement, ouais, vas-y.
Non, c'est ça, c'est totalement ça, c'est éviter d'être vraiment catalogué dans une tâche précise, et se dire, voilà, lui c'est monsieur installation d'un ordinateur. Non, le but... Après, certains veulent rester un peu dans cette norme cataloguée, mais... À l'heure actuelle, il y a très très peu de gens, même en reconversion, qui veulent justement être catalogués. Le but, c'est de pouvoir évoluer, de pouvoir apprendre, de pouvoir monter en appétence et avoir cette envie-là d'apprendre tout simplement.
Bah justement, qu'est-ce que tu pourrais dire de plus sur le quotidien d'un technicien support? Finalement, c'est quoi des tâches qui pourraient être récurrentes pour un technicien support, par exemple, pour les gens qui voudraient se faire une idée et se projeter dans ce métier-là?
En fait, elles sont nombreuses. C'est cette notion justement de polyvalence. C'est accueillir un client. Ça peut être dépanner une pièce matérielle, une carte mère, un processeur. Ça peut être installer un ordinateur, faire du ticket, donner des fois un peu des conseils aussi, tout simplement, se dire bah voilà, on nous pose des questions, on s'arrête de temps en temps sur l'utilisation de la charte informatique. Le technicien est aussi là pour répondre. Et des fois, il peut aussi donner son point de vue en se disant bah voilà. Je cherche à combler le besoin d'un client via un service et je suis tombé sur telle solution ou telle solution sur internet, j'ai un peu testé, qu'en pensez-vous, etc. Le technicien, très souvent on dit, il est un peu là pour combler les trous. Des fois c'est vrai, des fois c'est faux. Des fois aussi il est là en soutien des administrateurs pour justement endiguer toute problématique, toute complexité, etc., etc. Mais vraiment le rôle du technicien, ça peut être de l'accueil, ça peut être de la proposition. Des fois aussi, il peut faire force de médiation, tout simplement, quand ça se passe mal avec un client qui vous appelle. C'est très souvent le technicien qui va l'avoir au téléphone. Et là, comme je dis très 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 souvent, on ne rentre pas dans le lard de la personne, on essaie d'être le plus correct et le plus poli possible, puisqu'on représente notre société. Et très souvent, bah, il faut être un peu diplomate, parce que bon, on se fait un peu agresser, on peut des fois malheureusement se faire insulter. Faut pas le prendre pour soi, faut pas surenchérir, faut essayer justement de trouver un juste milieu pour se dire que voilà, un technicien est et se doit d'être diplomate justement pour satisfaire ses clients. C'est très 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 important.
Ouais, en effet, cette notion de service, elle est super importante. Quand on parle de support, on a tendance à l'oublier. Et c'est vrai que les gens qui appellent le support, ils sont déjà en péril, ils ont des problèmes. Ils sont déjà un peu énervés avant de nous appeler. Donc, c'est vrai qu'ils peuvent être des fois un peu énervés. Et bah, ce service-là, c'est vraiment super important parce que, comme tu le disais, c'est l'image de marque de ta société. Typiquement, est-ce que... Quand on parle de support, est-ce qu'on peut justement parler des divers niveaux de support? Je ne sais pas si tu as l'habitude des supports à niveau. Moi, je sais que j'ai beaucoup pratiqué quand j'étais justement au support. J'ai fait presque tous les niveaux de support. Est-ce que tu peux nous en toucher quelques mots, justement?
Oui, en général, c'est niveau 1, niveau 2, niveau 3. Niveau 1, en général, c'est... Je ne sais pas que c'est les choses un peu pas importantes, mais c'est les choses sur lesquelles les techniciens peuvent régler, entre guillemets, par eux-mêmes. Et quand on escalade vers niveau 2, niveau 3, ce sont des gens qui ont soit un peu plus de recul, soit des techniciens un peu plus avancés, plus de connaissances, plus de compétences, plus de droits aussi, ça peut arriver sur les infrastructures, sur les tout ce qui est en attrait à l'informatique avec le client. Et c'est pas une honte, c'est ce que je dis souvent à mes étudiants, c'est pas une honte de se dire bah voilà, je ne sais pas faire, je ne comprends pas, je n'y arrive pas. Bah je vais escalader à quelqu'un qui a plus de, qui est plus haut que moi dans la hiérarchie et qui va pouvoir m'aider, m'aiguiller. C'est ce que je dis souvent. Il y a quelqu'un qui est toujours plus fort que nous, il y a toujours quelqu'un qui est moins fort que nous. Et ce métier, justement, de technicien, même d'informatique en général, c'est toujours se dire, bah, se remettre en question quand on n'a pas arrivé quelque chose, quand il y a un problème, quand il y a un couac, il faut toujours se remettre en question. Alors, pas forcément sur toutes les demandes, mais il faut pas avoir peur de se dire, bah, je ne sais pas, donc je vais me mettre de côté, tout simplement. C'est je ne sais pas, je vais demander à quelqu'un de plus compétent que moi un coup de main, et c'est pas une honte à avoir dessus. Bien au contraire, c'est même très, très formateur.
Ouais, il y a quelque chose que dans une de mes missions justement où j'ai fait du support, j'étais chez un papetier et en fait l'une des missions que j'avais, puisque j'en avais plusieurs en tant que technicien à l'époque, c'était la gestion des sauvegardes. Alors ce que je faisais, ça se fait un peu moins maintenant, mais tout est virtualisé. Mais à l'époque, c'était j'allais sur les serveurs, j'enlevais les bandes puisque les sauvegardes étaient faites sur bande. Les bandes, je les mettais dans des pochettes et je les envoyais au coffre qui était à un autre endroit physiquement. Et je récupérais les anciennes bandes, je les formatais et je les remettais dans le serveur. Aujourd'hui, il y a peut-être encore ce genre de choses chez certaines boîtes, mais justement, le technicien support, je pense qu'il peut gérer tout ce qui est sauvegarde, c'est-à-dire aller vérifier que tout se passe bien sur les serveurs, que les sauvegardes aient été bien faites, ou alors si jamais il y a un problème, bah, aller récupérer les sauvegardes sur le cloud, puisqu'on peut faire des sauvegardes sur le cloud, et aller les réimporter. En tout cas, nous, c'est ce qu'on fait faire à notre alternant aujourd'hui, on lui fait gérer tout ce qui est sauvegarde là-dessus. Ouais. Est-ce que tu as d'autres petites anecdotes là-dessus au niveau des activités, oui, justement du support?
Oui, oui. Moi, j'ai un gros client qui fait de l'automobile en France, enfin multinational, et eux, ils sauvegardent une partie de l'infrastructure encore sur cassette. Et là, c'est quelqu'un sur les sites en Bretagne qui échange les cassettes, etc., etc. Pour la petite anecdote, oui, dans ma petite entreprise bretonne, là où on était une dizaine, les administrateurs justement ne trouvaient justement que cette idée de backup était bien, mais que c'était pas de leur ressort justement de vérifier que les backups soient fonctionnels, qu'ils se soient bien installés, etc., etc. Et on se rend très vite que lorsqu'un backup ne fonctionne pas, ils en ont appris malheureusement à leurs dépens, que lorsqu'il ne fonctionne pas, c'est un peu triste parce que on perd toutes les informations. Et c'est arrivé chez un client. Sauf que moi j'ai un peu pris ce sujet-là à la main. Et comme on dit, quand on a 200, 300 clients avec 15, 20 machines à chaque fois, on peut pas tout vérifier en instantané, en temps réel. Ça demande beaucoup de temps. Et le métier de technicien, c'était aussi une partie de mon temps, voire même certaines fois des journées entières, c'est de vérifier le bon fonctionnement d'un backup, que le backup se soit fait, s'il ne s'est pas fait, comprendre pourquoi et analyser la situation. Voilà. Il me renvoie un message en me disant qu'il y a un problème de droit, je vais analyser, diagnostiquer, comme le dit un peu Lithil, tout simplement, et agir en conséquence, de dire, ça ne fonctionne pas, pourquoi? Je résous le problème, c'est très bien, on vérifie que la sauvegarde se soit bien faite, ça ne fonctionne pas, on escalade à niveau 2 en disant, j'ai ce problème-là, j'ai fait telle manipulation, ça ne fonctionne pas, pourquoi? As-tu une idée? Et ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé très très régulièrement, sauf que malheureusement, c'est beaucoup mis de côté. Pourquoi? Parce que les backups, c'est un temps monstrueux à mettre en place, à manager, à infogérer en temps réel, et il faut des personnes qui puissent suivre en temps réel ou tout simplement tous les jours, faire un check tous les jours de ça marche ou ça ne marche pas, et analyser et agir en conséquence. Et souvent, on délègue ça aux techniciens, mais le technicien a déjà beaucoup de boulot, voilà. Et déléguer cette partie-là justement au technicien qui a déjà du boulot, des fois, comme je dis, c'est un peu lui envoyer la patate chaude, tout simplement. Des fois, c'est un peu compliqué parce que ça peut des fois dépendre de technologies qui sont tellement avancées qu'on comprend pas trop le mode de fonctionnement.
Voilà. Oui, c'est vrai qu'on peut mettre en place. On peut mettre en place des technologies de sauvegarde bien avancées. Oui. Je sais que nous, on en a plusieurs chez nous, et c'est vrai que des fois, il faut expliquer. Je vais expliquer les choses, notamment dernièrement, on a fait mettre en place une technologie de sauvegarde sur du stockage objet. Donc c'est une techno que connaissait pas notre alternant et il a eu un petit peu de mal à comprendre. Donc je lui ai expliqué bien correctement ce que c'était le stockage objet par rapport au stockage bloc classique qu'on trouve sur les serveurs. Et au fur et à mesure, je lui ai dit d'essayer des choses, et là, il a compris, en effet. Mais c'est vrai que ça va pas de soi, en fait.
C'est ça. Et cette partie-là, c'est une partie que très peu de techniciens maîtrisent, parce qu'on en parle très, très, très rarement, même dans les formations. On n'a pas réellement de cours en termes de ces formations, même moi le premier, qui est un BTS d'informatique, où on ne m'a jamais expliqué à quoi servait une sauvegarde, un backup, etc., etc. Et on se dit que là, c'est un côté qui est un peu caché, parce que c'est ultra important. Bon, des fois, il faut un peu de formation, c'est comme ça, pour comprendre les technologies. Donc là, il faut qu'un administrateur, par exemple, nous explique. Mais c'est très, très souvent mis de côté parce qu'on préfère se baser sur la virtualisation, sur du réseau, du Windows et du Linux. Et la partie sauvegarde est très souvent mise au ban sans réelle raison, alors que bah, les sauvegardes, ça peut littéralement sauver une entreprise.
Ouais, c'est essentiel. Mon premier alternant, justement, il a fait un BTS, je ne sais plus comment ça s'appelle, SIO, SISR, spécialisé dans le réseau, justement, infrastructure et réseau. Et en fait, lui, il avait vu très rapidement, puisque à un moment donné, on lui a fait mettre en place des sauvegardes et on lui a demandé c'est quoi les bonnes pratiques qu'on vous apprend à l'école. Il nous a dit on nous a appris le principe de la sauvegarde, mais pas dans le détail. Donc du coup, avec mon associé, on lui a expliqué les bonnes pratiques, le 3-2-1, etc. Mais ça m'a un peu surpris que justement, au niveau BTS, on n'apprenne pas ce genre de choses. Moi-même, quand j'étais passé en BTS en 98, on ne me l'avait pas appris, mais ça me surprend un peu moins à l'époque qu'aujourd'hui. En effet, c'est essentiel aujourd'hui.
J'ai fait aussi un BTS SIO et CSR, et à aucun moment, moi, on m'avait expliqué à quoi servait un backup. Très honnêtement, du réseau, c'est la même chose. Et c'est souvent ce qu'on peut reprocher à certaines écoles, etc. Ce sont des fois des programmes, on ne dirait pas qu'ils ne sont pas à jour, mais qui datent d'il y a peut-être 5, 10, 15 ans et qui ne sont plus forcément en adéquation avec ce qu'on a aujourd'hui. Par exemple, les backups. Moi, mes étudiants, quand je leur parle de backup, ils me disent « oui, ça sauvegarde, point ». Voilà. Mais comment, du pourquoi, le 3-2-1, avoir plusieurs solutions, plusieurs stockage à droite et à gauche, pas tous justement sur le même lieu, etc., etc. Ils comprennent pas l'intérêt. Et même à des postes techniciens que j'ai déjà eu, des gens qui ont déjà eu ce BTS SIO et qui sont maintenant en bac plus 4, bac plus 5, quand on leur parle de backup, je dirais pas que c'est parler chinois, mais ils ont très très peu de notions. Pour eux, ça sauvegarde, voilà, point. Il n'y a pas de notion de rétention, de 3-2-1, ça sauvegarde, point, c'est bon. Et c'est quelque chose justement qui manque, même en termes de techniciens. On leur demande pas, certes, de maîtriser tout l'écosystème de sauvegarde, mais au moins connaître des bases, de dire, voilà, 3-2-1, pourquoi, expliquer pourquoi, du hors-sol, etc., etc. Mais ça, c'est quelque chose qui est très, très mis de côté. Et même, on le voit avec OVH, quand il y a eu le feu, justement, à Strasbourg OVH, cette notion de sauvegarde, de backup, a été mise de côté. Donc, on se rend compte que c'est un problème qui est vraiment universel en France.
Ah bah clairement, clairement. Et puis je pense qu'il faut le pratiquer, la sauvegarde, pour vraiment en fait que ça rentre, parce que sinon, en effet, ça a du mal à rentrer. Vu qu'on parle de technicien support, toi, tu nous as dit que tu as fait BTS SIO et CSR. Est-ce que tu as fait d'autres études, et quelle étude il faut faire finalement pour devenir technicien support? À quelle étude on peut s'arrêter? Est-ce que tu conseilles plutôt des filières courtes, des filières longues, etc.?
Alors moi, j'ai tout fait à l'envers. J'ai passé mon BTS juste pour valider un diplôme d'informatique. Mais avant de passer un BTS, je savais déjà ce que c'était un Windows. Je manipulais très très régulièrement en associatif le Linux. Les bases réseau, j'en avais. Donc c'était juste pour valider. La preuve en est, c'est quand j'ai validé mon BTS, je travaillais déjà dans une ESN depuis un an et demi. C'était vraiment juste pour valider un acquis. Pourquoi? Parce que maintenant, il y a beaucoup d'entreprises qui demandent d'avoir un acquis minimum, un bac plus 2. Et ce qui est un peu dommage. On a plusieurs façons de voir le technicien. Il y a des gens qui ont déjà plein de compétences en informatique et qui le font, ils sont très contents. Et il y en a d'autres, moi je connais maintenant des gens qui sont patrons d'entreprises dans l'informatique, DevOps, et qui n'ont aucun diplôme en informatique. Après, de là dire formation courte, formation longue, tout dépend de notre manière de faire. Moi, j'anime les deux et j'ai remarqué quand c'est des formations qui sont intensives sur 9 mois, où ils font des cours, des thématiques toutes les semaines qui vont être différentes, les étudiants et les étudiantes, très important, ont très souvent du mal à comprendre justement que c'est de l'intensif et qu'il faut vraiment être centré dedans, c'est-à-dire ne pas louper une journée, ne pas mettre justement ces lacunes-là à demain, etc., etc., parce que faut suivre un programme et le programme est tellement long et intensif et on fait pas de pause, il y a pas de vacances, etc., etc., que ça peut des fois un peu dégoûter. Et il y a beaucoup de gens qui arrêtent parce que ils ne voyaient pas les formations comme ça. Et il y en a d'autres qui préfèrent faire en long via une alternance, c'est-à-dire ils font une semaine de cours, trois semaines d'alternance ou l'inverse, ça dépend des entreprises et des entités, et qui préfèrent faire comme ça parce que eux, prendre du cours, comprendre un cours, c'est bien, mais eux, ils veulent vraiment manipuler dans un cas concret. Et souvent, ce qu'on nous dit d'un côté en cours, oui, mais bon, vous allez jamais avoir de Linux, patati patata, ils vont peut-être tomber sur une entreprise qui va faire que du Linux. Et des fois, vraiment, entre les deux, c'est différent. Et c'est ça qui est aussi très important. C'est vraiment une notion de goût et de couleur. Et moi, je sais que travailler dans une entreprise, c'est beaucoup plus formateur que d'aller dans un cours, assis derrière une table avec une chaise et d'écouter quelqu'un parler ou faire des TP en temps réel, parce que c'est beaucoup plus formateur. On met vraiment les mains dans quelque chose sur lequel, si on se trompe, c'est le client qui est impacté. On a aussi ce relationnel avec ce client-là. Voilà. Si j'avais dû continuer justement plus loin que le technicien, j'aurais fait en alternance parce que l'entreprise est beaucoup, en général, beaucoup plus, c'est beaucoup plus formateur que assis derrière une chaise à écouter quelqu'un qui nous écoute. On a vraiment cette notion de manipulation qui est pour moi, selon moi, la plus intéressante.
Je suis assez d'accord. Tu parlais des formations courtes. On a fait un épisode de podcast justement sur apprendre le DevOps en 6 mois où on parle vraiment des formations très courtes. On parle pas que du DevOps, on parle de manière générale des formations très courtes. Donc, cher auditeur, si tu l'as pas écouté, va l'écouter. Et je suis d'accord avec toi sur le fait que l'alternance, c'est vraiment bien. Moi, je voulais faire mon BTS en alternance. J'étais hyper jeune et j'ai eu du mal à trouver une entreprise. En étant moi-même aujourd'hui employeur et tuteur d'alternance, je comprends pourquoi c'est dur quand on est au niveau bac de trouver une entreprise qui veut bien miser sur nous. Parce que quand on commence au niveau bac et qu'on veut faire un BTS en alternance, grosso modo, on ne sait rien faire finalement. Et moi, j'ai vu avec mon premier alternance, c'est ce que j'ai fait. J'ai passé un an à tout lui apprendre et aujourd'hui, je ne le referai plus parce que j'ai plus le temps. En tout cas, notre entreprise est trop petite pour pouvoir se le permettre. Les plus grosses entreprises, je ne sais pas, je me pose la question. Mais après, c'est vrai qu'après le BTS, pour continuer en alternance, c'est vraiment super bien. Parce que comme tu le dis, on voit d'autres choses, on voit d'autres contextes, on voit même des choses qu'on ne peut pas voir en cours et vice-versa.
Et moi, mon premier alternant, désolé, qui était venu par Open Classroom, qui était motivé, intéressé, on se rend compte que entre la formation en accéléré et la mise en pratique dans une entreprise, pour lui, ça a été très très compliqué. C'est-à-dire suivre des normes, des règles, une manière de travailler, et c'est très très compliqué. Est-ce que je le referais ? Ça dépendrait des étudiants, mais dans son cas, je le referais pas parce qu'il y a beaucoup beaucoup trop de lacunes et comme tu l'as dit, on perd vraiment trop trop de temps justement à réexpliquer ce qu'ils ont déjà vu, ce qu'ils ont déjà entendu, et finalement on perd plus de temps qu'autre chose. Alors, l'alternant est là aussi pour apprendre le métier, comprendre le métier, mais si on doit lui réexpliquer les fondamentaux, des fois ça peut être un peu compliqué. S'il nous pose des questions sur comment fonctionne l'entreprise, pourquoi on a fait notre architecture comme ça, ou des questions un peu techniques, c'est tout à fait intéressant. Mais quand des fois on nous explique, je donne un exemple sans sous-entendu, la différence entre l'IPv4 et l'IPv6, et on dit non, t'es censé avoir eu des cours de base, des fondamentaux réseau, justement sur ce principe-là. Et on dit oui, mais en fait j'ai pas compris. Et on se dit en fait on va repasser derrière quelqu'un qui est censé leur avoir expliqué, et ça peut être très compliqué.
Ouais, c'est pour ça que moi j'ai pris trois stagiaires, c'était pas des alternants, mais trois stagiaires qui sortaient justement de reconversion. Tous les trois, c'est pas que ça s'est mal passé, mais tous les trois j'ai passé énormément de temps, mais quand je dis énormément de temps, c'est beaucoup. D'habitude, je compte 1 heure par stagiaire et par jour, ce qui est déjà beaucoup. Et là, c'était plus qu'une heure par stagiaire et par jour. Parfois, je passais 2 à 3 heures par jour à leur expliquer des choses, à leur montrer. Et donc, j'ai décidé de plus le faire parce que nous, on est tout petits. Hein. On est deux personnes expérimentées avec 2 à 4 alternants. Mais par contre, dans des grandes boîtes, je me demande s'ils ont vraiment le temps aussi et s'ils ont envie de le faire. Et comme tu dis, ils sont là pour apprendre, mais en effet, le juste milieu, il est où ? Est-ce qu'on doit leur apprendre la même chose qu'ils ont appris en cours, ou est-ce qu'on doit leur apprendre à leur perfectionner les connaissances qu'ils ont en cours ? Et c'est vrai que c'est dur. C'est vrai que c'est dur.
Justement, moi, j'ai fait mon stage, enfin mes deux stages d'informatique en BTS dans une très très grosse boîte, au siège d'une très grosse boîte où ils étaient 1200 salariés. J'avais cette notion en fait que je connaissais déjà les lieux comme ma poche, ça allait, mais en fait le jour où je suis arrivé en stage, ils m'ont dit bah voilà, c'est ton ordre de mission, tu dois faire ça et puis c'est terminé. Voilà. Il n'y avait pas de suivi, il y a pas de suivi. La personne qui devait me suivre, mon tuteur, était une fois par semaine. Ça devient très très compliqué en fait. On est là pour faire un stage, on est là pour découvrir, mais on n'est pas là non plus pour dégoûter la personne, que ça soit technicien, administrateur, ingénieur, quel que soit le diplôme ou tout simplement. Et ça, malheureusement, des fois, on a un peu cet oubli-là de, c'est quelqu'un qui est là pour découvrir le métier, pour savoir si c'est vraiment ce qu'il veut faire. Et je m'emploie justement à expliquer ça aussi à, par exemple, à mes étudiants d'Open Classroom, parce que ils se projettent déjà en disant, c'est un stage où je vais travailler comme quelqu'un de normal, je vais tout faire comme tout le monde. Non, non, tu es là pour découvrir. Des fois, ça se passe très bien et il y a une embauche derrière. J'en ai un qui, ça lui est arrivé il y a quelques semaines. Et des fois, ils sont un peu dégoûtés parce que c'est pas du tout la vision qu'ils avaient de l'informatique ou même de l'informatique dans une entreprise ou comment on l'utilisait tout simplement.
Oui, et puis des fois, le stage, il est pas bien qualifié par rapport aux connaissances de la personne. On leur demande des trucs trop complexes ou pas assez. Donc c'est vraiment très chaud. Je me demande si finalement c'est pas les PME qui sont les meilleures formatrices de stagiaires, je sais pas. Et puis ça dépend aussi du niveau de la personne, hein. En effet, tu t'attends pas la même chose d'un stagiaire qui sort d'une filière courte comme on vient de voir, ou de quelqu'un qui est en bac plus 5. Clairement, moi j'attends pas la même chose de quelqu'un qui sera en bac plus 5 que de quelqu'un qui se reconvertit.
On est tout à fait d'accord.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
D'après toi, quel impact a le DevOps, finalement, ce mouvement-là, sur justement le métier du technicien support ? Est-ce qu'il est touché ou pas ?
Oui, moi de plus en plus, je remarque de plus en plus, puisque il y a beaucoup de cursus de techniciens, justement, de support, de proximité, quel que soit le nom, où on commence un peu à parler, par exemple, d'automatisation. On commence à faire du développement. Bon, c'est pas non plus des choses très très folles, mais on leur demande de faire du développement sur PowerShell, sur Bash. On leur demande de faire un peu d'automatisation. On va pas pousser en parlant de Rundeck, Puppet, Ansible, Stack, ou même de Docker, mais on va quand même commencer un peu à tâter le terrain pour voir, bon, si c'est quelque chose qui va leur plaire ou pas. On va peut-être leur demander de faire du WDS, du WSUS, par exemple. Mon premier alternant, il a un peu travaillé, c'est quelque chose qui l'intéressait, justement, cette notion d'automatisation. À faire un peu d'Ansible parce qu'il voulait savoir voilà ça sert à quoi, c'est quoi l'intérêt, pourquoi on met ça en entreprise, etc., etc. Et il s'est rendu compte que c'était quelque chose qui était ultra intéressant et que même finalement, même pour un technicien, si on lui dit bah voilà, t'as juste à taper cette ligne de commande là et ça met à jour 300 serveurs, ça va être un gain de temps énorme pour lui, c'est-à-dire qu'il va ne plus passer sur les 300 serveurs les uns après les autres à se demander si finalement il faut tout mettre à jour à la main, etc. Il a juste à faire une ligne de commande, ça balance le playbook, par exemple, pour Ansible, et il fait les différentes étapes, et lui, il a juste à vérifier à la fin, dans le résultat, si c'est OK, si c'est pas OK. Si c'est pas OK, il va regarder pourquoi, si c'est OK, il peut faire autre chose, tout simplement. Et c'est un gain de temps énorme. Et même pour les préparations d'ordinateurs, par rapport à certaines missions que Deform a un peu proposées, donc pas Casino, mais une enseigne concurrente, c'était d'installer des ordinateurs, les Windows, à la main. C'est-à-dire, on prend un lecteur, un disque dur externe, on le branche, on l'installe. Oui, mais si on veut un peu automatiser, l'automatisation, un technicien est censé pouvoir le faire avec du WSUS pour mettre à jour un pack informatique, du WDS avec des images. Même, on fait même beaucoup de sysprep, dès le début de la formation. Et le but, ce n'est pas de le noyer, mais de se rendre compte que finalement, il y a peut-être des choses un peu plus intéressantes que de cliquer sur suivant, OK, valider, des choses qui vont être moins chronophages avec eux, tout simplement. On leur fait aussi développer des fois des scripts pour créer des utilisateurs sous Windows, sous Linux, créer des tâches un peu spécifiques, etc., etc. Et les étudiants, des fois, ont un peu du mal à comprendre au début c'est quoi l'intérêt. On fait un script, c'est bien, mais ça nous sert à quoi? Et puis quand ils le créent, et puis qu'on leur dit, vas-y, teste ton script. Et quand ils testent leur script, ils se disent, bah finalement, bah, ça m'a fait gagner un temps énorme, et c'est cool, je vais pouvoir faire autre chose. Et c'est génial. Et petit à petit, moi, j'ai des étudiants qui ont fait un script, par exemple, on leur demande pour faire créer un utilisateur. Bah, ils vont faire pour les droits de dossier, ils vont faire pour des applications, ils vont faire pour des installations, etc., etc. Ils se disent, ah, finalement, c'est génial, ça nous fait gagner un temps fou et on peut faire autre chose à côté. Et quand quelqu'un passe après nous, il a juste à balancer le script et le script fait tout pour lui. Et en fait, on fait de la même façon et c'est génial, quoi.
Ouais, je suis assez d'accord. Et pour l'avoir fait aussi, j'ai mis en cible entre les mains de mon premier alternant. Il était aussi en BTS. Je pense que c'est largement quelque chose qu'on peut apprendre au BTS en cible. C'est pas d'un niveau technique très complexe. Si on se concentre sur le provisioning d'un serveur, ce qui normalement devrait pouvoir être à la portée de n'importe quel BTS, puisqu'on voit la notion de système, je pense qu'en cible, on peut les mettre entre les mains des BTS, surtout qu'on fait du shell. Enfin, moi, je sais que je faisais beaucoup de shell. Enfin, moi, c'était pas SISR à l'époque, c'était du temps réel. Donc, je sais pas s'il y a un équivalent aujourd'hui. En gros, j'ai appris à développer en C, je fais du shell et du makefile, etc. Mais je pense que il y a aucun problème pour faire de l'automatisation pour justement nos chers techniciens. Comment ?
Et c'est justement demandé de plus en plus par les techniciens. On leur demande pas d'implémenter tout un système en Ansible, mais de comprendre le fonctionnement, de comment utiliser ou comment un peu débugger. Surtout que par certaines écoles, en plus du métier de technicien de Bash et de PowerShell, font un peu de Python. En SISR, c'est demandé. C'est une étape de ce qu'on appelle l'étape de programmation, qui est pas très très folle, mais on nous demande de faire notamment du Python. Donc ça permet aussi d'avoir des bases et un peu d'automatisation. Mais le problème étant, c'est que moi j'ai beaucoup beaucoup vu que ça soit enfin, les démarchages, les alternants ou les gens qui passaient les examens avec moi, il y a beaucoup beaucoup de lacunes et je pense aussi qu'on a peur de leur mettre entre les mains cette notion d'Ansible d'automatisation parce que des fois, les bases sont très, très, très mal comprises. J'ai déjà vu des gens qui passaient le BTS SEO en examen en temps réel qui se mélangeaient les pinceaux entre du LAN et du WAN, qui se mélangeaient les pinceaux entre un Windows et un Linux. Et là, on se dit, si déjà les bases et les fondamentaux ne sont pas là, on ne peut pas pousser plus loin. Et moi, je partirais plus sur, par exemple, c'est une option supplémentaire, c'est ceux qui ont vraiment ces compétences-là. Mais moi, j'en ai plein. Faire la différence entre un Windows et un Linux en termes de commandes, c'est quasiment mission impossible parce que c'est très compliqué pour eux justement de scinder que c'est deux environnements complètement différents, pour deux besoins différents. Ouais.
Et pourtant, il y a un monde entre les deux. Hein,
oui, vraiment, oui, oui, oui.
c'est vraiment la base. Parce que moi je parle beaucoup de communication entre les équipes, tu sais, le DevOps pour moi c'est aussi de la coopération. Est-ce que ce truc-là, il rentre aussi en ligne de compte dans l'apprentissage ? Pour moi c'est vraiment important. J'imagine bien un technicien support aller voir les équipes de développement qui ont développé certains produits qu'il a en charge en fait de superviser en tant que technicien support et de leur dire bah voilà, on a eu tel et tel problème. J'ai vu que c'était récurrent, j'ai vu tel truc, est-ce qu'on peut regarder ensemble, voir si je peux vous aider à développer un truc, peut-être que lui ça peut l'intéresser, ou voir le technicien support, aller voir les administrateurs système, et puis faire aussi la glue entre les deux, pour justement améliorer cette coopération dans les équipes de dev et d'ops, justement.
Alors, entre dev et admin, ou sys tout simplement, j'ai jamais vu une entreprise où c'était le grand amour. ça a toujours été un problème dans l'application. Non, c'est pas mon application, c'est le serveur. Et le côté sysadm, non, c'est pas le serveur, c'est le côté développement. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours. J'ai eu très très peu de missions, de prestations, même de clients au quotidien où il y a très peu cette notion-là de c'est ton moi je suis sûr de ce que j'ai fait, c'est ton problème. J'ai quelques clients avec qui je travaille, avec les devs, où par contre ça se passe admirablement bien. J'ai un client qui son dev a fait du développement, un script en bash pour automatiser la création de sites web. Et il m'envoie son code en me disant, je comprends pas, telle chose ça ne marche pas, ça fait tel comportement, peux-tu m'expliquer? Et dans ces cas-là, en fait, ça donne envie parce que la personne ne dit pas, c'est de ta faute. Tout simplement, c'est dit, ça ne fonctionne pas, est-ce que toi, tu as une idée de ton côté? C'est aussi cette notion d'un peu d'humain, c'est de se dire, ça ne marche pas, pourquoi ça ne marche pas? Ou de dire, ça ne marche pas parce que c'est ta faute. Et ça, c'est quelque chose à l'heure actuelle entre système et développeur qui est très très récurrent, de dire, moi, je sais ce que je fais. Donc c'est de ton côté, mais dire bah non mais regarde, moi j'ai des erreurs qui me disent ça, voilà. Par contre entre DevOps, ça m'est arrivé, jamais aucun problème. J'ai un problème dans le code, tu peux m'expliquer, ouais pas de souci. J'ai un problème, je ne comprends pas, on peut débugger, oui pas de souci. Honnêtement dans le DevOps, j'ai jamais aucun problème de comportement, de rétention d'informations, ou de dire bah non c'est pas moi c'est toi. Même si c'est moi qui ai fait n'importe quoi, bah attends vas-y. T'es sur mon problème, pas de souci, mais je vais te donner un coup de main pour justement t'expliquer comment j'ai fait, pourquoi j'ai fait comme ça, et t'es une erreur, on va regarder ça pour le débugger ensemble. Mais vraiment, si on parle vraiment de la base, développeur, système, c'est toujours très compliqué parce que chacun connaît son métier et dit tout simplement que c'est la personne en face qui s'est loupée tout simplement.
Eh ben, ce que tu décris typiquement, ça, donc c'est... Je pense que tu as entendu parler du mur de la confusion, mais c'est clairement ça, et c'est clairement ce que le DevOps, en tout cas le mouvement, essaye de gommer. Et quand tu parles de DevOps, pour moi, j'ai l'impression que c'est des ops qui sont rentrés dans le mouvement et qui ont compris le besoin de collaboration avec les équipes de dev. Et pour moi, le premier cas, là, les devs et les ops qui peuvent pas s'entendre, c'est que justement, il y a pas encore eu de poser cette culture de la coopération, cette culture de l'amélioration continue dans l'entreprise, et que clairement il n'y a pas de DevOps chez eux, et c'est pour ça que j'ai un peu de mal avec le terme métier DevOps, mais ça j'en parle dans plein d'autres podcasts. Pour moi, ce qu'on appelle un DevOps, c'est ni plus ni moins qu'un ops qui est rentré dans le mouvement DevOps et qui fait justement qui va vers les devs, qui travaillent avec eux, et pareil, les devs qui sont dans le mouvement DevOps, parce que pour moi, c'est transverse, hein. Ils vont voir les ops et ils travaillent avec eux, et bon, c'est pas le meilleur des mondes, mais en tout cas, ça améliore les choses.
Ça améliore les choses, tout en sachant que quand on se prend la tête pour un bug, c'est pas nous on se met pas nous en porte-à-faux, mais le client en porte-à-faux, c'est le client après qui est impacté par ce genre justement de mésentente. Et quand des fois, ça m'arrive de travailler avec des développeurs qui sont un peu, ils ont un peu cette notion-là, très honnêtement, moi, je vais pas plus loin parce que c'est pas du tout ma notion des choses. Le but, c'est pas de dire, c'est pas de ma faute, c'est de ta faute, c'est ton problème. Non. J'ai un problème, j'ai identifié telle chose. Est-ce que ça te parle? Oui, non. Est-ce qu'on peut regarder ensemble, justement, pour améliorer sur le processus, soit faire un debug, etc., etc. Mais j'ai très peu d'entreprises où on a vraiment cette scission, cette cassure entre ces deux mondes-là, se dire, on travaille main dans la main, on travaille justement pour un client. Et le plus important qu'une guéguerre interne entre les développeurs et les administrateurs ou la partie système, c'est de satisfaire le client. Et moi, c'est quelque chose qui est très important, c'est cette notion justement de satisfaction. On peut être très bon et ne pas vouloir communiquer avec un développeur parce que, c'est pas mon problème, c'est son problème à lui. Et lui va me dire la même chose de son côté. Dans ce cas-là, on fait quoi? On laisse le client s'énerver, on paye des indemnités au client, on reste tel quel, et c'est complètement anxiogène, et c'est une vision qu'il faut énormément gommer parce que ça sert strictement à rien.
Ouais, on est d'accord. C'est pour ça que j'ai encore beaucoup de travail à diffuser ce message-là. Et puis, tu parles du client, mais il y a aussi au sein des grosses entreprises, c'est l'entreprise en elle-même qui perd en productivité, hein, parce que s'il y a une guerre entre les devs et les ops, moi je parle de guerre, mais ça peut être des tensions, c'est l'entreprise tout entière qui est en péril, enfin peut-être pas en péril, mais en tout cas qui va perdre en productivité, et donc c'est dommage pour l'entreprise, surtout qu'en plus on fait tous partie de la même entreprise en théorie.
On est tous dans le même bateau, Voilà.
Exactement. Et le bateau, en fait, il a qu'une direction. Donc, c'est ça qu'il faut justement arriver à trouver, avoir la direction commune.
Tout à fait.
Toi, quel conseil tu donnerais à un novice, justement, qui veut se lancer dans ce métier, le métier de technicien support?
C'est comme dans tout métier, déjà, sa première chose, c'est la motivation. Si on n'est pas du tout motivé pour ce métier-là, ça ne fonctionnera jamais. Que ce soit même les autres métiers, par ailleurs. Mais c'est vraiment cette motivation et cette soif d'apprendre. Alors, pas non plus aller trop vite dans l'apprentissage, mais voilà, dire, bah voilà, je connais rien à l'informatique, mais c'est un domaine qui m'intéresse parce que, bah, je vois les gens faire, j'ai un voisin, j'ai un ami, j'ai un collègue, j'ai, etc., etc. Et de fil en aiguille, un peu complexifier les choses et continuer justement à garder cet amour-là. Comme on dit, dès qu'on a l'amour on a une passion, l'informatique, la voiture, etc., tant qu'on a cette flamme-là, il faut continuer dans ce sens-là. Si on commence à être un peu dégoûté, etc., etc., faut changer de voie. Après, il faut savoir que même dans l'informatique, on fait au quotidien des choses, des fois, que l'on n'apprécie pas. Et ça, c'est dans tous les métiers pareil. Il faut aussi avoir cette notion de, on ne fera pas toujours ce que l'on veut. Mais être curieux, être de bonne humeur, très important, être voilà, chercher un peu les informations, on peut parler Twitter, LinkedIn, les réseaux sociaux, les blogs, Reddit, il y a énormément de possibilités. Et à l'heure actuelle, c'est ultra intéressant. Même si, je vais peut-être me faire taper sur les doigts, l'anglais, c'est quelque chose qui va être très important parce que on a plein d'informations et on s'échange toutes et tous des informations, les Américains, les Anglais, les Français, les Allemands, etc., etc. Et l'information évolue tellement rapidement et on peut récupérer de l'information tellement rapidement, ne serait-ce que via des vidéos, qu'on peut avoir énormément d'informations, énormément de choses, et on peut aussi s'amuser à tester des technologies, des choses, etc., etc. Et ça, c'est vraiment tout un panel d'informations sur lequel il faut se baser parce que c'est un métier qui est ultra prenant, qui peut être très enrichissant suivant l'environnement dans lequel on évolue. Et moi, honnêtement, je faisais en général du 9h, 18h du lundi au vendredi. Je passais facile une journée, soit mon samedi, soit mon dimanche, à comprendre pourquoi l'entreprise a utilisé telle technologie, me renseigner sur des choses. Bah, il y a un client qui m'a parlé d'une technologie, je vais vérifier. Ah bah, j'ai pas su installer un Linux. Un exemple typique, et je vais un peu essayer de comprendre de mon côté pour évoluer, pour se dire, bah voilà, je sais plus, mais par la suite, je saurais faire tout simplement. On ne parle pas non plus de travailler gratuitement, mais quand on est motivé, en général, on veut toujours apprendre et être un peu curieux sur ce qui nous entoure, tout simplement, comment ça marche, etc., etc. Quitte à reproduire, avoir un labo chez soi, un ordinateur, un hyperviseur, etc., pour tester, pour faire de la bidouille en temps réel. Voilà.
Le conseil que j'aurais à donner, c'est entourez-vous d'autres personnes, en effet, restez en contact avec vos collègues à l'école, en tout cas, c'est important. Moi, le conseil que je donnerais aux personnes qui voudraient faire ce métier, c'est si, en gros, vous aimez le contact un petit peu humain et que vous voulez potentiellement faire des études courtes, c'est bac plus 2, eh ben, vous pouvez aller dans ce métier-là parce que une fois que vous aurez fait votre BTS ou votre DUT, alors c'est plus un BTS pour être efficace en termes d'entreprise, quand vous serez en entreprise, vous progresserez assez vite. Et grosso modo, quelques années après, vous aurez un niveau un peu équivalent à celui de l'ingénieur, alors sans toute la partie cognitive de réflexion qui est apprise aux ingénieurs, mais il n'y aura pas de problème pour que vous puissiez évoluer après, devenir cadre, etc. Enfin, je veux dire, je suis l'exemple flagrant, vu que j'ai qu'un BTS et j'ai pu évoluer au fur et à mesure du temps. Tous les BTS vous le diront, hein, de toute façon.
C'est ça. Moi, j'ai eu le déclic, très honnêtement, quand j'ai fait de l'associatif. Voilà, je fais de l'associatif dans sur le monde libre de Linux, voilà, ça soit breton ou au niveau national, et c'est tout simplement de discuter comme si on prenait les personnes qui venaient, connaître Linux, Ubuntu, Debian, etc., et de voir que finalement on est dans son monde et de se dire, bah finalement l'informatique ça peut déclencher des vocations, etc. J'ai un étudiant parcours de technicien informatique, il a eu le déclic quand il a été à la nuit du hack. Alors, ça n'a pas forcément trop de parallèle avec le métier d'informatique, mais il s'est rendu compte que le technicien, c'est bien, on fait beaucoup, un peu d'administration, un peu de dépannage, etc., mais que finalement, le système, c'était quelque chose, et la sécurité, c'est quelque chose qui l'intéressait énormément, comment se passaient les arnaques, comment on faisait du mail, comment voilà les règles un peu de sécurité dans l'entreprise. C'est quelque chose qui le passionne et sur lequel bah il essaie un peu de baser ses cours dessus pour faire les deux en même temps, se dire voilà j'apprends des bases et ces bases là j'essaie un peu de comprendre comment on pourrait les détourner, comment on pourrait un peu les pirater, les choses un peu comme ça. Et voilà.
Ouais, il y a un autre truc pour moi qui est important quand on fait du support ou de la gestion d'incidents, c'est le côté enquête. Moi, j'adore me projeter en tant que... Je suis un grand fan de Sherlock Holmes et j'adore me projeter. Je me dis, je suis Sherlock Holmes de l'informatique parce qu'on va collecter des données, des informations. Et en fait, on va essayer de savoir ce qui s'est passé. C'est comme un crime. Notre serveur, il est tombé. Bah, pourquoi est-ce qu'il est tombé? Pourquoi est-ce que... il les donne, collecter toutes les informations et refaire tout le cheminement. C'est vraiment un truc intellectuel qui est intéressant et qui est complètement différent pour le coup du développement, où là, on va vraiment analyser les choses et non pas concevoir des choses. Mais en effet, il y a des parties de conception, mais cette partie-là d'analyse, je l'aime beaucoup.
C'est ce que j'ai beaucoup à mes étudiants, je leur dis. Ah, l'exemple typique, c'est ça ne marche plus. Oui, mais pourquoi ? Comment ? Quelle est la raison ? Quelle est là ou les raisons, etc. Et souvent on me dit oui, finalement, ça ne fonctionne pas, mais c'est peut-être intéressant de savoir pourquoi, pour ensuite savoir comment le résoudre tout simplement. Et les étudiants souvent me disent, c'est vrai qu'on ne voit pas forcément ces choses-là. Quand on n'est que simple usager, utilisateur, bon, on ne voit pas cette notion-là, et quand on est vraiment dedans, on se rend compte que on ne fait pas au tatillon, on essaie un peu de comprendre. Moi, je parle pas de Sherlock Holmes, je parle de puzzle, c'est de me remettre les pièces aux bons endroits, tout simplement, pour comprendre. Et se dire, ah bah oui, mais en fait, c'est pour telle raison, bah, j'ai telle information, pourquoi? Ok, je vais un peu me renseigner, je vais un peu essayer de comprendre l'erreur, et ensuite solutionner, dire, c'est bon, ça marche, le puzzle est ok.
Ouais, clairement, quand on va faire tout le cheminement, quand on aura trouvé l'origine du problème, peut-être qu'il va falloir faire évoluer l'application. Et là, on va aller voir nos amis, les développeurs. On va leur dire, ben voilà ce que j'ai trouvé. Souvent, c'est ce que j'ai fait, en fait, quand j'étais gestionnaire d'application. J'allais voir les développeurs. Je leur dis, ben voilà, il s'est passé ça. Voilà quel est le cheminement. Je vous laisse toutes les infos. Et puis vous, vous allez trouver comment corriger l'application et l'améliorer. Parce qu'on ne peut pas améliorer quelque chose qu'on ne comprend pas, en fin de compte.
Et c'est souvent une très grosse fierté pour les techniciens. Et je leur dis que si vous avez solutionné un problème, soyez-en fiers, justement. Vous êtes peut-être la dernière roue du carrosse, des fois c'est très vulgairement dit, mais il faut être fier de ce que l'on fait. On ne peut pas toujours être excellent, mais soyez fiers, justement, des résolutions de tickets, même si c'est quelque chose de très simple. C'est petit à petit, vous allez complexifier les choses, mais soyez justement fiers du boulot que vous faites et de la motivation que vous avez, et essayez de la garder le plus intacte possible.
Ouais, puis on a tendance à oublier, mais c'est un élément hyper important dans une entreprise, le technicien support et le support de manière globale, parce que l'équipe de développement, elle développe le produit, mais si on lui demande en plus de faire le support, bah du coup, elle va être séparée entre les deux et elle va pas pouvoir le faire. Les administrateurs système ou réseau, eux, ils gèrent l'infrastructure, mais pareil, si on leur demande de faire du support, bah, ça va leur prendre du temps. Et en fait, les techniciens support et l'équipe support de manière globale sont là pour résoudre les problèmes et surtout alerter s'il y a des problèmes récurrents à améliorer. Parce que s'il y a un problème récurrent qui arrive genre toutes les semaines, bah là, ça vaut le coup quand même d'y passer du temps à développer quelque chose.
C'est ça. On est tout à fait d'accord là-dessus, on a la même vision des choses.
Bon, bah, parfait. Eh bien, on va arriver vers la fin de ce podcast. Est-ce que tu aurais un livre, un article ou même une conférence à conseiller à notre auditrice ou auditeur qui nous écoute ?
Non, je suis honnêtement beaucoup plus blog, blogosphère que conférence et livre papier, très honnêtement.
Eh ben, un blog alors à suivre.
Oui, un blog que j'aime bien, sur lequel j'ai beaucoup potassé, parce que ça relève beaucoup du métier des techniciens, c'est le site Tech2Tech. Sur lequel on met régulièrement, enfin du moins les fondateurs mettent régulièrement des articles, ça peut être des dépannages, ça peut être un peu des explications très terre à terre, avec une partie écrite et une partie plus verbale, vidéo tout simplement. Et c'est ultra intéressant et c'est vraiment c'est un peu vraiment basé sur des fondamentaux et on est là sans complexe justement pour découvrir, apprendre et monter en compétences. Même quand des fois on connaît la solution, il y a toujours des petits tips qui permettent de mieux comprendre ou mieux assimiler certaines choses. Et c'est un site que je donne énormément à mes étudiants parce que c'est une mine d'or. Et les mines d'or françaises, il faut justement en prendre soin et en profiter le plus possible, tout simplement. Parce que c'est une mine d'or, tout simplement.
Exactement. Alors, est-ce que c'est le site tech2tech.fr?
Oui, tout à fait.
Bon, ben, je mettrai le lien en description. Et en effet, il faut... Moi, j'encourage tous les gens qui veulent faire du contenu à le faire en français parce qu'on en manque. Et le contenu francophone, on a tendance à l'oublier.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Mais même si on comprend l'anglais, comprendre une technologie ou quelque chose dans une langue qui n'est pas notre langue maternelle, on se rajoute de la difficulté. Donc si on peut concevoir du contenu en langue française pour que les personnes qui sont nativement français puissent comprendre les concepts avancés, bah c'est bien en fait.
C'est pas plus mal, oui.
C'est bien.
On en manque cruellement.
Et on en manque.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, on en manque cruellement et c'est dommage, quoi. Parce qu'il y a de quoi faire.
Ouais, c'est dommage. Bah, c'est pas pour rien que les chaînes YouTube françaises qui parlent de tech ou de numérique explosent en fait, hein, parce qu'on manque cruellement d'informations. Alors, où est-ce qu'on te retrouve ? Nous, on a échangé sur LinkedIn, mais est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut te retrouver ?
Oui, sur Twitter. On peut se retrouver sur Twitter. C'est les deux canaux principaux sur lesquels je suis. Principalement.
D'accord. Et ton pseudo Twitter, c'est quoi ?
C'est l'enclan. L-A-N-K-L-A-N tiré du bas.
Ok, bah, je mettrai de toute façon les liens de ton LinkedIn et ton Twitter directement en description.
Un grand plaisir.
Et bah, je te remercie pour ton temps. On arrive déjà à une heure. C'était passionnant. J'espère que notre auditeur ou auditrice a appris quelque chose sur ce sujet. Et bah, Cyprien, moi, je te dis à bientôt sur les réseaux en tout cas.
À bientôt également.
Et si tu as une dernière chose à dire, eh ben, c'est toi qui as le mot de la fin.
Tout simplement, si vous vous sentez d'attaque, vous êtes motivé par l'informatique, il faut se lancer. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir de crainte. On n'est pas là pour juger les gens, on est vraiment bienveillant en général. Et on est là dans cette idée d'apprendre et d'avancer. Donc, vous êtes motivé, il faut foncer. Il faut pas s'arrêter à l'informatique, il faut vraiment foncer dans vos envies. Voilà.
Eh ben, merci. Lancez-vous. My Little Team m'a proposé de créer un job board avec eux. Et comme j'aime leur façon de faire, je leur ai dit oui. Alors, si tu cherches un job, fais très attention à ce que je vais te dire. Ce job board me permet de te proposer des équipes que j'ai présélectionnées sur recommandation de My Little Team. En effet, elles ont une culture qui te permettra de t'épanouir. Et tu sais à quel point la culture est importante pour moi. Passer par mon job board, c'est aussi, pour toi, l'assurance d'être accompagné par My Little Team dans ton parcours de recrutement. Et en plus, tu me soutiens, car ce job board me permet de gagner de l'argent, et donc de financer les podcasts que tu aimes tant. Donc, rendez-vous sur vue.fr/jobboard-devops, mais sinon, tu trouveras le lien en description. Attends, si t'es manager, DSI ou directeur d'entreprise, et que tu cherches à recruter des personnes qui sont intéressées par le DevOps, tu l'auras compris puisque tu écoutes ce podcast, c'est l'endroit idéal. N'hésite pas à déposer tes offres d'emploi sur mon job board. C'est sur vue.fr/jobboard-devops-recrute. Mais c'est pas grave, le lien est aussi en description.
Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode, plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager, ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des Compagnons du DevOps. À bientôt! La balado-diffusion des Compagnons du DevOps est produite par l'Hydra.